dans la plaquette de l'Institut National Universitaire Champollion, plaquette qui présente les formations proposées, figure une unité d'enseignement optionnelle, originale à plus d'un titre. Une unité d'enseignement intitulée « Héritage européen et réflexion citoyenne », une unité d'enseignement toute neuve, mise en place à la rentrée 2016, une unité d'enseignement qui reçoit le soutien du Conseil départemental du Tarn. J'en avais entendu parler au Festival des innovations pédagogiques organisé en avril 2017 par le département de sociologie. J'ai voulu en savoir davantage et pour ce faire, je suis revenue sur les bancs de la fac pour un cours en forme d'entretien à plusieurs voix. Voici ce que j'ai retenu. Écoutez sans appréhension, vous ne serez pas soumise à examen à la fin. Une émission en deux parties dont voici le premier volet, une émission enregistrée en décembre 2017. Je suis à l'université Jean-François Champollion, l'Institut universitaire Jean-François Champollion, où je suis accueillie par des étudiants et étudiantes, ainsi que des enseignants, enseignantes, chercheurs et chercheuses, pour la présentation d'une unité d'enseignement un peu particulière, une unité d'enseignement qui a été expérimentée l'an passé, pendant l'année universitaire 2016-2017, et qui est reconduite en cette année 2017-2018. Cette unité d'enseignement s'est mise en place après les attentats de novembre 2015, et elle est la conséquence de la réflexion qui a été menée après ces événements tragiques. Cette unité d'enseignement s'intitule « Héritage européen et réflexion citoyenne ». Elle fait intervenir trois disciplines, l'histoire, la sociologie et la géographie, et elle a donné lieu l'an passé à un travail sur la Shoah par balle avec un voyage d'études en Ukraine. Un voyage financé par le Conseil départemental puisque ce dernier est partenaire de cette unité d'enseignement. L'hôtel du département a du reste accueilli une exposition restituant le travail mené dans le cadre de cette unité d'enseignement. Pour en parler, plusieurs intervenants et intervenantes, donc des étudiants et une étudiante, un enseignant-chercheur et une enseignante-chercheuse. Et je vais commencer par demander à tout ce monde de bien vouloir se présenter.
Bonjour, donc je suis Sandrine Victor, enseignant-chercheur en histoire.
Bonjour, Alex Leportier, étudiant en troisième année d'histoire.
Bonjour, Taïva Poideleu, je suis en troisième année de géographie.
Bonjour, Igal Figelkov, maître de conférences en sociologie.
Bonjour, je suis Kelly Loiseau, je suis en troisième année de sociologie.
Bonjour, Mal Cornus, en troisième année d'histoire.
Peut-être commencer par préciser les circonstances de la mise en place de cette unité d'enseignement. Donc, j'ai parlé de la réflexion après les attentats de novembre 2015. Comment ça s'est réellement passé? Est-ce que c'est le conseil départemental qui vous a sollicité? C'est vous qui avez, au sein de l'équipe, des équipes d'enseignants et chercheurs, souhaité réagir dans vos disciplines à ces événements, à ces attentats de 2015? Est-ce que c'est un programme national qui a invité les universités partout en France à mobiliser les étudiants après ces attentats?
Alors c'est un peu tout ça à la fois, puisque au départ il y a sans doute une invitation de notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à développer les actions en direction de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc ça c'est sans doute un point de départ. L'autre aspect, vous l'avez soulevé, c'est aussi une initiative locale avec un intérêt manifeste de au moins 3 à 4 enseignants-chercheurs d'histoire, de sociologie et de géographie qui ont eu envie de s'investir dans une approche pédagogique de la chose. Et puis, moi, je dirais que le troisième aspect, c'est aussi la population avec laquelle on travaille, c'est-à-dire les étudiants, qui, par diverses attitudes, nous ont invités à développer cette unité d'enseignement. Alors, quand je dis diverses attitudes, c'est à la fois des étudiants intéressés pour en savoir davantage sur ces questions relatives au racisme et à l'antisémitisme d'un point de vue historique, sociologique, mais aussi géopolitique. Et puis, c'est aussi parfois notre désarroi face à des attitudes relativement indifférente par rapport à l'actualité et à ces questions-là. Donc c'est cette double sollicitation des étudiants qui nous a conduit, je crois, aussi à nous investir dans cette unité d'enseignement.
Alors on va peut-être préciser le rôle du conseil départemental, puisqu'on me signalait une erreur sur le financement du voyage. Exactement, le conseil départemental, il fait quoi dans cette unité d'enseignement? Il a quel rôle?
Alors en fait, notre partenaire financier le plus actif, hein, c'est une association qui s'appelle Yahadi Nounou, C'est l'association qui a été mise en place par le Pierre Desbois, qui a pour objectif d'aller sur les pays de l'Est, en particulier en Ukraine, Biélorussie, etc., pour repérer les sites de choix par balles et en fait faire un inventaire des fosses, tout simplement parce que ça n'avait pas été fait et c'est une façon de faire respecter hein, la mémoire des victimes. Donc c'est en fait parmi les déclencheurs hein, de cette UE, il y a aussi ça, cette opportunité de travailler avec Yahadi Nounoum, donc qui apporte l'expertise de terrain, la logistique pour que les étudiants puissent faire un séminaire sur le terrain directement au contact des témoins qui restent vis-à-vis de ces massacres. Et donc, ensuite, nous, on a cherché des partenaires locaux qui nous ont surtout soutenus pour les actions de divulgation et de diffusion au grand public. Donc, l'année dernière, on avait fait une exposition, des conférences. Les jeunes étaient allés dans les collèges et les lycées pour parler de leur expérience de terrain, mais également pour aborder le problème avec les collégiens et les lycéens. Et puis, on a publié une plaquette avec l'exposition. Et donc, c'est plutôt cette aide-là qui nous est donnée par des financements locaux.
Très bien, merci pour cette correction et pour ces apports donc, sur le rôle du conseil départemental et de cette association dont on reparlera. Vous écoutez la première partie d'une émission consacrée à une unité d'enseignement proposée à l'Institut National Universitaire Champollion, une unité d'enseignement intitulée « Héritage européen et réflexion citoyenne », une unité d'enseignement qui donne lieu à un travail sur la Shoah par balle. Une émission enregistrée en décembre 2017. Peut-être parler du choix du sujet, la Shoah par balle, peut-être faire intervenir les étudiants, celui de l'an passé peut-être, mais peut-être ceux aussi qui commencent à travailler là-dessus, pour présenter ce sujet, et puis on reparlera après de la manière dont il a été choisi.
Donc la Shoah par balle, c'est les Allemands sur le front de l'Est qui regroupaient les populations juives et qui les massacraient. Donc ça s'est fait essentiellement en Ukraine, comme nous on a pu aller voir. On l'a vu aussi en Pologne, ils sont en train de le voir, je crois, en Biélorussie, si je dis pas de bêtises. Donc c'est surtout ce phénomène où les Allemands regroupaient des populations juives et les massacraient, tout simplement.
Le choix de ce sujet, comment il s'est décidé? Est-ce que les étudiants et étudiantes sont associés au choix du sujet? Comment se mène la réflexion pour décider qu'on va travailler sur un tel sujet?
Alors, c'est un choix qui est lié à notre partenaire de travail. Parce que le fait de travailler avec Yahadi Nounoum, c'est avoir, comme le disait Sandrine il y a quelques instants, l'opportunité de bénéficier d'un encadrement de très haute qualité, puisque les historiens, les experts qui font ce travail de recensement, à la fois des témoins, puisque le travail de Yahad consiste à non seulement identifier les fosses, mais aussi enregistrer la parole de ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire des gens qui avaient à ce moment-là un âge très jeune, et qui ont pu voir de leurs propres yeux des populations être rassemblées, regroupées et fusillées donc devant leurs propres yeux. Donc le travail de Yahad, c'est ça. C'est aussi un travail sur les archives, donc il y a un travail technique. Et avoir cette structure qui nous accompagne dans la réalisation de cette unité d'enseignement, pour nous, c'est vraiment une très belle opportunité, puisque je vous rappelle simplement que les deux universités dans le monde qui profitent jusqu'à présent du travail de Yahad, c'est Georgetown University et Paris-Sorbonne. Donc faire venir à Albi des intervenants de cette structure, bénéficier de la possibilité de partir avec eux sur site, faire un séminaire de terrain, pouvoir expérimenter à une petite échelle, mais leur méthodologie de travail, c'est pour nous quelque chose de fantastique, évidemment. Et puis, qui plus est, cette histoire, c'est aussi la nôtre, puisque c'est l'histoire de la Shoah, c'est l'histoire de la civilisation européenne. Donc, ça tombait un peu sous le sens, évidemment, qu'on poursuive avec eux cette année encore.
En effet, un sujet qui est reconduit cette année.
Oui, alors pour juste compléter en deux mots, la Shoah par balle, pourquoi par rapport à la Shoah? Justement parce que c'est un phénomène qui est moins connu que l'extermination en camp. La mécanique des camps qui crée une mise à mort, si vous voulez, distanciée, nous a pas paru tout de suite pertinente, justement, en réponse aux attentats. La Shoah par balle, c'est de la Shoah de proximité, c'est-à-dire où vraiment les tueurs des Einsatzgruppen avaient les gens qu'ils massacraient à quelques centimètres d'eux. Et ça nous a paru intéressant aussi d'interroger le crime de masse dans cette proximité-là, parce qu'on parle d'un million et demi de morts. C'est et pas alors, un phénomène anodin.
Sur la Shoah par balle, pour y revenir peut-être, ça a été pratiqué sur une période assez courte. Et comment on explique l'abandon de cette méthode, puisqu'il faut quand même s'exprimer ainsi de la part des nazis?
On peut considérer que ça commence printemps, été 41, et ça s'est arrêté en 43, donc assez regroupé dans le temps, si on peut dire comme ça, avec, comme on l'a dit, 1,5 ou 2 millions de victimes, suivant les chiffres. Après, ça a été abandonné parce qu'il a fallu... les nazis ont commencé à pas mal... à tomber sur le mur russe. L'hiver russe les a fait pas mal douter et reculer. Donc il a fallu avant tout se préoccuper des objectifs militaires. Et puis ils ont voulu faire aussi, et ça leur a pris du temps, disparaître toute trace de ces massacres. Cette manière de tuer là, qui est la Shoah par balle, c'est un peu un laboratoire de l'extermination, puisque ça a été, un laboratoire qui a été ensuite récupéré pour mettre en place les camps d'extermination à échelle plus industrielle.
On précise peut-être donc que celui qui vient d'apporter la réponse, c'est un étudiant qui suit le programme cette année. Peut-être parler justement du travail que vous menez. Alors ceux qui viennent de rejoindre cette unité d'enseignement, j'imagine que vous n'avez pas encore fait le voyage en Ukraine, que c'est prévu pour un peu plus tard. Comment vous le préparez? C'est quoi le travail en amont avant de partir là-bas? Et puis on reviendra après peut-être sur ce voyage.
Alors d'abord, il faut savoir qu'on va faire pas mal de travail de recherche. En ce qui concerne, par exemple, la méthode de fonctionnement, comment les Einsatzgruppen, déjà, d'où viennent les Einsatzgruppen, d'où viennent ces soldats, qu'a été cette population juive, qu'a-t-elle vécu, et qu'est-ce qu'elle a vécu avant aussi cette étape d'extermination. Et on va du coup faire un travail de recherche, et en même temps, nous sommes aidés par l'association IAD et UNUM pour, par exemple, nous donner des conseils sur les méthodes d'interview, puisqu'on va rencontrer, on aura la chance de rencontrer des témoins de ces moments passés. Et du coup, il faudra bien adapter une certaine posture. Et donc, ce travail de recherche, cette méthode d'interview, pour interroger ces individus, tout ça, c'est tout ça qui va essayer de nous forger, en fait, de partir dans le séminaire de terrain, de partir sur le terrain, et en disant, ben voilà, il s'est passé telle chose à ce moment-là. Et à partir de là, essayer d'analyser, d'enquêter pour savoir et pour répondre en fait à nos problématiques respectives. Puisqu'en fait, dans ce travail-là, dans cette UO, nous sommes quatre groupes avec quatre sujets différents. Donc il peut y avoir les Einsatzgruppen, il peut y avoir aussi la mémoire. Donc enfin, il y a autant de thèmes en fait qu'il y a de recherches à effectuer dessus, quoi.
Et ça, c'est vous, les étudiants et étudiantes, qui les faites émerger, ces thèmes de recherche, ou c'est un peu guidé par les enseignants qui vous accompagnent?
Oui, alors, on n'est pas non plus laissé en pâture, on est quand même bien dirigé. Sur ce coup, il n'y a pas de problème dessus. Mais après, c'est à nous aussi de faire le premier pas, d'aller rechercher des choses en disant, ben voilà, on va partir du principe qu'on va rechercher des choses et puis on va les présenter une fois le cours commencé. On va les présenter, on va se dire, ben voilà, on a su telle et telle chose, et toi t'en penses quoi? Et puis c'est en fait avec les échanges aussi qu'on aura effectués, qu'on apprendra beaucoup plus et qu'on sera... qu'on apprendra comme... Enfin, on peut pas vraiment comprendre en fait comment les Einsatzgruppen ont été poussés à faire ça. En tout cas, on comprendra un peu mieux leur méthode de fonctionnement et la vie aussi avant-guerre et pendant la guerre.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchirent la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des ombres. Depuis longtemps leur vie avait été jetée. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure obstinément, combien de tours de roue, d'arrêts, de départs qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare.
Vous écoutez la première partie d'une émission consacrée à une unité d'enseignement proposée à l'Institut National Universitaire Champollion, une unité d'enseignement intitulée « Héritage européen et réflexion citoyenne », une unité d'enseignement qui donne lieu à un travail sur la Shoah par balles. Une émission enregistrée en décembre 2017.
Vous étiez 2100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 2100.
Parler de ce voyage que vous allez effectuer, mais que l'un d'entre vous qui a suivi l'unité d'enseignement l'an passé a effectué. Sur le terrain, ça se passe comment? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que j'imagine qu'il y en a devant un tel sujet.
Comment ça se passe? Donc, en gros, on est le groupe avec deux traducteurs, enfin un traducteur et une traductrice. On est en face d'un témoin qui a entre 85 et 90 ans. Un traducteur va poser la question en français, la traductrice donc, va le traduire au témoin ukrainien, et il va se passer un échange, en fait. Et nous, on va écouter, et on va marcher à travers le village, et on va voir, par exemple, où était le ghetto juif. Il nous disait où était tel marchand, ou le médecin, ou ce genre de choses. Et donc, nous, on va écouter, on va imaginer, bien sûr. À la fin, on va aller sur les lieux de la fosse. Donc, c'est un échange très instructif, mais dur aussi, parce qu'on voit toute l'émotion que nous renvoie le témoin. Et l'esprit travaille énormément, donc on se met vraiment à la place du témoin, en fait. On revient à cette période. Et enfin, on va aller, donc, comme je l'ai dit, sur les lieux de la fosse. Et puis là, on va voir le désastre, je dirais. Donc, on va voir des récits sur comment le témoin a vu l'extermination des Juifs. Il va nous raconter certains détails, certaines petites choses que lui se souvient, parce que c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais oublier. Donc c'est avant tout un échange et je dirais une découverte entre guillemets, parce que c'est jamais très agréable de découvrir ça. C'est un peu tout ça réuni et c'est surtout vraiment un échange.
Alors vous parlez d'aller sur les lieux où ça s'est passé, c'est matérialisé là-bas, on peut se rendre compte qu'il y a eu effectivement... Ces massacres
Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que dans certains cas, on a eu une plaque, par exemple, commémorative pour dire, voilà, à tel endroit, il y a eu un massacre et il y a eu tant de morts. Mais on est allé à d'autres endroits où, par exemple, il y a une fosse, j'ai plus le nom du village, où la fosse, c'est maintenant une décharge. Donc, il y a un devoir de mémoire qui n'est pas autant prononcé qu'en France. Certaines personnes, certains témoins, parce qu'on en a rencontré un qui, lui, veut que cette mémoire perdure, mais c'est très minoritaire par rapport à ce que nous, on connaît en France, parce qu'ils ont des problématiques actuelles différentes par rapport à ce qu'on peut avoir en France.
Par rapport à la situation politique.
Par rapport à la situation politique, ouais. Il faut savoir que l'Ukraine est un pays en guerre, donc les Ukrainiens sont plus préoccupés par la guerre que par ce devoir de mémoire.
Et au niveau des témoins, c'est l'association Yara des Nounoum qui les repère, qui vous les indique. Et sur les rencontres, est-ce que vous les rencontrez plusieurs fois? Parce que c'est quand même assez lourd ce que vous leur demandez de raconter. Comment ça se passe?
Alors, en gros, c'est l'association Yara des Nounoum qui a rencontré les témoins avant. Ils ont fait une sorte d'enquête. Donc, ils sont allés dans les villages, ont demandé, voilà, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a vu ou qui a entendu parler de massacres de juifs? Ils ont tout un travail en amont. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste rencontré des témoins, mais qui ont déjà été interrogés au moins une fois par l'association. Ils avaient déjà livré leur récit à l'association, et nous, on l'a juste, en fait, réécouté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une certaine émotion, il n'y avait pas une certaine dureté dans les récits du témoin. Donc nous, on a juste réécouté, on a vu chaque témoin, on les a vus qu'une seule fois, et on a eu la chance de les voir au moins une fois.
Et là, sur ce sujet, il y a peut-être aussi une certaine urgence à le traiter, parce que j'imagine que les témoins, ils commencent à se faire un peu rares.
Oui, tout à fait. En fait, le travail de l'association, c'est vraiment un travail d'urgence. Les témoins se font rares, on parle de moins en moins. Et puis, tout simplement, vu le contexte politique, c'est vrai que les familles sont de plus en plus... réticentes à passer du temps comme ça pour accompagner la personne âgée sur le terrain, à accueillir des étrangers comme ça pour avoir des récits. Tout le monde est un petit peu vigilant et donc c'est vrai que là, ce que font les jeunes, donc là, ce qu'Alex a oublié de préciser, c'est qu'en amont, ils préparent les dossiers, on leur donne des documents d'archives, des archives allemandes, des archives russes sur les sites où on va aller. Donc en fait, ils auront préparé, si vous voulez, la théorie historique. On aura vu aussi des théories sociologiques pour étayer tout ça. Et après, quand on va sur le site, en fait, on va contraster ce que l'on sait par les sources avec les témoignages. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'ont jamais témoigné et c'est la première fois. Donc, sauf l'enquête exploratoire faite par Yara des Nounoum, qu'ils parlent comme ça à des étrangers. Et ils nous font en fait déambuler dans leur village pour nous dire, voilà, les Juifs habitaient là, on les a déplacés là, quand les nazis sont arrivés, c'est par ici, on les a conduits là, etc. Et petit à petit, comme ça, on recrée l'événement. Quand on arrive donc à la fosse, c'est vrai, c'est le dernier temps du témoignage, eh bien, c'est vrai que 9 fois sur 10, il n'y a absolument aucune trace, aucune borne, et seule la parole du témoin fait foi sur l'emplacement de ces fosses.
Vous écoutez la première partie d'une émission consacrée à une unité d'enseignement proposée à l'Institut National Universitaire Champollion. Une unité d'enseignement intitulée « Héritage européen et réflexion citoyenne », une unité d'enseignement qui donne lieu à un travail sur la Shoah par balle. Une émission enregistrée en décembre 2017.
Juste pour préciser aussi, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a affaire effectivement à des témoins qui se sont assez peu exprimés. Alex disait une fois, deux fois, même une fois, ça a été... Enfin, une de nos rencontres, la dernière, Alex, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la première fois qu'il parlait, la toute première fois. Donc c'est vous dire à quel point c'est sans filtre. C'est parfois une nécessité, parce que c'est des gens qui sont très âgés, qui voient la fin de leur vie arriver, et donc c'est parfois extrêmement cru, extrêmement violent, mais en même temps tellement authentique. Donc c'est précieux. Et c'est vrai qu'on sait combien le temps nous est compté. Yahad le sait, nous le dit chaque année. Quand il prépare notre venue sur site, souvent, ils sont obligés à la dernière minute de modifier notre itinéraire parce que les témoins sont plus là. Voilà. Donc c'est une expérience tout à fait extraordinaire. Et il faut s'imaginer ce que c'est que d'avoir des témoins parmi les derniers qui vont nous communiquer leur histoire, évidemment. Donc, à ce titre-là, c'est une expérience tout à fait exceptionnelle que nous avons le plaisir de vivre les uns avec les autres, si j'ose dire.
Et alors, sur cette association Yara des Nounoum, Madame Victor l'a présentée, c'est une association française et basée en France ?
Oui. C'est une association qui existe depuis 2004, qui est effectivement basée en France, mais qui est présente aussi beaucoup aux États-Unis, puisque la vocation de cette association, à l'origine, ça n'est que de travailler sur la Shoah par balle, donc d'éclairer cette partie de l'histoire qui était un peu moins sous les projecteurs. Mais aujourd'hui, ils ont un peu déployé leur modalité d'action. Ils travaillent aussi sur les Yazidis, qui sont persécutés. Et c'est un travail qui est en plein développement chez eux avec le Père Desbois. Voilà. Essentiellement lui qui développe cet accès. Mais pour l'essentiel, le travail de cette association, de cette structure, c'est quand même la Shoah par balle. Voilà. Avec des développements récents, parce que la réflexion du Père Desbois, c'est de se dire comment je peux travailler sur l'histoire sans me rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui et sans être un acteur de cette histoire immédiate, quoi. Enfin, voilà.
Et sinon, aller en Ukraine, c'est compliqué aujourd'hui pour mener ce type d'enquête ?
Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un pays en guerre. Hein, donc, une chose obligatoire, c'est de rester à l'ouest du pays. Hein, ça, c'est évident. Donc, on choisit d'abord les sites pour ça, pour la sécurité des étudiants et la nôtre. C'est compliqué aussi parce qu'on est aux frontières de l'Europe. Eh bien, c'est là que les étudiants se rendent compte aussi ce qu'est la construction européenne, l'espace européen, l'espace partagé. Et quand on sort de cet espace-là, eh bien, passer une frontière, c'est compliqué. Et on a vraiment la sensation de passer une frontière. On passe aussi une frontière historique. Hein, on passe vraiment de l'autre côté à l'est. Et donc, on a vraiment un dépaysement assez fort. Et puis, c'est compliqué parce que c'est un pays qui a des difficultés économiques qui font que les routes sont dans des états absolument affreux. Et faire 15 km, ça prend tout de suite une heure et demie. Donc, ça demande beaucoup de logistique sur le terrain. Quelquefois, il y a des endroits où on ne peut pas passer parce que les routes sont inondées ou ont été couvertes de neige ou il y a des arbres au travers de la route. Donc, il faut faire demi-tour. Voilà, ça va des choses très simples comme ça qui compliquent la visite jusque le problème de sécurité qui font qu'on peut pas c'est pas un voyage comme les autres.
Et juste un élément aussi plus matérialiste, vous m'excuserez, mais c'est compliqué aussi parce que aucune université ne fait ce voyage. Lorsqu'on parle de la Shoah et des voyages, on imagine souvent que c'est assez facile et au final ça concerne que les lycées pour l'essentiel. Aucun établissement d'enseignement supérieur en France, je peux vous assurer que c'est vrai, ne va à l'étranger, que ce soit à Auschwitz ou en Ukraine, évidemment, c'est encore plus compliqué. Donc ça a été très, très difficile d'obtenir des soutiens pour nous accompagner dans cette démarche-là. Voilà. Donc ça fait l'originalité, la spécificité de ce qu'on leur offre, ce que l'on s'offre, hein, parce que nous aussi, évidemment, on est partie prenante, mais je crois en effet qu'on a beaucoup de chance, parce que ça a été très très difficile. On s'est adressé à nos ministères respectifs et on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas nous soutenir dans les temps qui étaient les nôtres. Et pourtant, il y a urgence, puisque partout en Europe, comme vous le savez, les nationalismes explosent, surtout à l'Est, notamment en Pologne.
Merci à Sandrine Victor et à Igal Fidjalkov, maîtres de conférences respectivement en histoire et en sociologie à l'Institut National Universitaire Champollion. Merci à Alex, Teiva, Maël et Kelly, étudiants et étudiantes qui suivent ou ont suivi l'unité d'enseignement Héritage européen et réflexion citoyenne proposée à l'Institut National Universitaire Champollion. Merci pour la musique à Hubert-Félix Thieffen, interprète de la chanson « Nuit et brouillard » de Jean Ferrat. Merci à Will pour son aide technique. Pour plus d'infos sur l'association Yarad Inunum, consultez leur site Yarad Inunum tout attaché, yahadinunum.org et retrouvez prochainement la seconde partie de cette émission sur les ondes de Radio Albigès 95.4 ou 104.2.